Bonjour Alain Baraton.
Bonjour Eric, c'est Victor Hugo qui disait « Je crois qu'il ne sait boire, ne sait rien ». J'aime bien cette petite phrase.
Vous devez savoir beaucoup de choses alors.
Il faut que ça monte au cerveau, ça y est je l'ai. Vous nous rappelez ce matin qu'il existe des plantes qui ont un bien joli nom.
Et oui, comme l'amourette, une jolie graminée qui embellit le jardin le temps d'un été, ou la dame d'onzeur, une fleur qui a un nom qui semble tout droit sorti d'une chanson de Francis Cabrel. Cette plante aime le soleil et s'ouvre, c'est logique, tous les matins vers 11h. Elle est aussi appelée étoile de Bethléem. Je pourrais aussi évoquer la chêne des cœurs, une plante dite d'intérieur qui produit de longues tiges très fines et pendantes et des feuilles panachées en forme de cœur. Il existe aussi le Dicentra spectabilis ou cœur de Marie, une vivace originaire d'Asie et cultivée par de nombreux jardiniers. Elle est appréciée pour ses fleurs pendantes, rouges, roses ou blanches.
Alors des plantes qui ont un joli nom, une qui est moins connue, le cœur des Indes.
Une grimpante qui peut atteindre 2 à 3 mètres de hauteur et qui est originaire des grandes forêts humides d'Amérique du Sud. Elle est ensuite partie à la conquête du monde et ses facultés d'adaptation sont telles qu'elle est considérée aujourd'hui comme mauvaise herbe aux États-Unis, sur l'île d'Hawaï, en Afrique du Sud et même en Australie. Elle se plaît aussi en Inde, d'où son nom de cœur des Indes. Elle est parfois nommée pois de senteur, pois avec un S et non un D, à ne pas confondre avec le pois de senteur, et son nom botanique n'est pas très glamour, j'en conviens, Cardiospernum alicacaboum.
Dites-moi ça.
Oui,
c'est alicacaboum.
Oui, Cardiospernum alicacaboum, c'est le vrai nom botanique de cette plante.
Le cœur des Indes, elle ressemble à quoi cette plante?
Alors, c'est une plante grimpante aux feuilles persistantes. Elle fleurit blanc, crème ou blanc verdâtre tout au long de l'été. Ses fruits ressemblent à des capsules et c'est à l'intérieur de celles-ci que l'on trouve des graines de teinte brune, de la taille d'un pois et sur lesquelles, l'on voit très distinctement une tache blanche en forme de cœur, d'où son nom.
Et le cœur des Indes, cette plante est utilisée pour ses vertus médicinales.
Les hommes utilisent le feuillage depuis très longtemps pour traiter les rhumatismes et les allergies cutanées et les racines pour leurs propriétés laxatives. Mais il faut, comme toujours, rester prudent. J'ai trouvé sur un site spécialisé dans la vente de produits naturels la recommandation suivante. Dans son pays d'origine, la plante est considérée comme non toxique, mais elle peut déclencher des réactions allergiques chez les sujets sensibles. Alors on n'y touchera pas, bien évidemment. On se contente de la planter et de la regarder pousser. Ce qui est certain, c'est que cette plante, le cœur des Indes, est une plante riche en saponine. Ce sont ses fruits qui en contiennent. Et la saponine, ça permet de faire du savon. Ah oui, oui. C'est bien pratique.
Merci Alain Baraton. Vous allez maintenant répondre aux questions des auditeurs et auditrices de France Inter. Gilles, par exemple, nous explique qu'il a du romarin et des lauriers roses sur son balcon. Il les a depuis plusieurs années, mais ces plantes n'évoluent pas beaucoup. Que faudrait-il faire pour qu'ils s'étoffent?
Déjà, si le romarin et le laurier rose poussent sur un balcon, j'en déduis que les deux plantes poussent en pot. Vous remarquerez mon degré avancé en psychologie. Donc, bien entendu, la plante a besoin de nourriture. Et quand une plante vit dans le pot, elle est quelque peu limitée. Ensuite, la plante, pour qu'elle soit heureuse, a besoin, un peu comme nous, de nous déplacer de temps en temps, d'aller toujours vers l'avant. Et la plante, quand elle a produit des racines, il n'y a plus d'espace, eh bien elle commence à stagner. Alors que faire? Si le pot est d'importance, on se fera aider par un ami, on retire la plante du pot, on coupe en périphérie les racines et la terre, allez sur quelques centimètres, et on remet la motte ainsi réduite dans le pot. J'espère que vous me suivez. Il y a donc un espace de vide qui est donc ainsi constitué. Il suffit de rajouter du bon vieux terreau, ce qui permet de donner de l'engrais dans un pot qui n'a pas augmenté de volume. Mieux, les racines ayant été sectionnées peuvent repartir à la conquête du monde. C'est ainsi que les orangers de Versailles, par exemple, vivent heureux dans des caisses depuis plusieurs siècles parce que justement, ils ont l'impression de croître. En fait, ils ne sont pas, comme on dit, en liberté. C'est contrôlé. Ils sont maintenus. Oui, c'est le principe des bonsaïs, en fait.
Patrick a constaté l'an dernier des traces blanches sur le feuillage d'un rosier exposé nord à l'ombre en hiver et au soleil l'été. Quels sont les remèdes?
Eh bien écoutez, il s'agit très certainement de l'oïdium. Alors déjà, je rappelle que le rosier, là encore, n'est pas vraiment une plante en pot. Je dis souvent qu'un rosier en pot, c'est comme une hirondelle en cage. Il n'est pas très heureux. Donc, faut éviter. Deuxièmement, je vous rappelle également que souvent sur les balcons exposés plein nord, la plante est sujette au choc thermique. Je vous explique en deux mots. Il fait froid la nuit, moins 2, moins 3, parfois même une petite gelée blanche. Et soudainement, le soleil apparaît. Et ce soleil va devenir brûlant. Même le matin, même s'il fait froid, les rayons du soleil sur la glace peuvent endommager le rosier. Donc ce rosier est dans une situation qui n'est pas évidente. En été, il est plein soleil, c'est l'inverse. Et donc, c'est de l'oïdium tout simplement. Ce qu'il faut, c'est aérer le végétal, faut le tailler, faut réduire le volume, faut éviter de lui mouiller les feuilles.
Question de Philippe de la région parisienne. Est-il trop tôt pour planter son gazon?
Ah, je vois. Alors, Il y a un enthousiasme en ce moment, et en particulier de votre invité, je crois.
Philippe Toretto.
Voilà. Philippe, c'est Philippe Toretto, voilà, qui vous a posé la question tout à l'heure dans le couloir.
Et qui a montré la main, déjà, qui avait des ampoules.
Lui, il a des ampoules aux mains, contrairement à vous.
Mais quand
il doit toucher
mains...
une bêche plus souvent que
oui,
vous.
Oui, mais les gants existent aussi pour ne pas se blesser les mains.
Vous avez trois paires de gants.
Et je disais donc à Philippe Toretto, attention, ce n'est pas parce qu'il y a un temps actuellement merveilleux que le printemps est là. Il est arrivé fréquemment qu'il y ait des gelées en mars. Un gazon, on peut préparer la terre maintenant, mais on attendra un mois avant de semer les graines pour permettre à celles-ci de germer dans de bonnes conditions, d'éviter que les oiseaux du quartier ne viennent se délecter, ce qui est toujours agréable d'avoir un petit jardin. On voit tous les oiseaux venir se ravitailler, ça fait plaisir et ça les nourrit, mais d'un autre côté, vous avez vous envie de faire un gazon. Donc, alors, on ne s'inquiète pas.
Mais vous n'avez pas encore semé, Philippe Toretto.
Non. Pour l'instant, j'aère.
Voilà. Non, mais c'est oui. Et l'avantage d'aérer maintenant, ça c'est une bonne idée, ça permet d'extraire de terre quantité de petits insectes, de les mettre en contact avec le ciel, donc visible des oiseaux, qui peuvent donc venir et gratuitement vous débarrasser de tous ces petits parasites. C'est une manière intelligente et la terre également sera aérée, la pluie pénétrera davantage en profondeur, donc c'est une très bonne chose que de préparer la terre maintenant, mais, je rappelle, nous ne sommes pas au printemps, on attend encore un mois.
Un mois.
Je vérifierai.
Philippe Toretto, vous avez grandi dans les serres, vous êtes issu d'une famille d'horticulteurs?
Oui, j'avais deux oncles horticulteurs. Et puis,
ce souvenir des serres.
Ma grand-mère, Mémé, dont j'ai fait un livre, et qui était, agricultrice, enfin, fermière, plus exactement.
Et on relira
ce mot.
Mémé, votre livre est paru il y a quelques
fermière.
Années.
C'est vrai qu'on ne dit plus ça, fermière.
Non, on ne le dit plus. Ouais.
On le dit plus, c'est dommage.
Oui, c'est dommage. C'est un joli mot.
Ouais.
Alain Baraton, question de Félix. Comment faut-il tailler un bananier? Il y a des bananiers en métropole?
Alors, il peut y en avoir, bien évidemment. Le bananier est une plante assez résistante. Alors, évidemment, on ne le plantera pas dans les régions où il gèle, à moins de le protéger. J'en profite pour rappeler que la meilleure protection pour le bananier, c'est d'entourer son corps donc d'un grillage, de mettre des feuilles mortes à l'intérieur. Donc, pour tailler le bananier, on va simplement couper les feuilles à 15-20 cm parce qu'elles vont constituer ce qu'on appelle le stipe, à savoir le tronc du végétal.
Un petit dernier conseil pour le week-end.
Joyeux anniversaire, elle a 30 ans. Je parle de la Garance Voyageuse. C'est la revue du monde végétal, une revue que j'adore particulièrement. Donc la revue numéro 124 est parue. La Garance Voyageuse, bon anniversaire.
La main verte d'Alain Baraton.